On va lire en quelques instants Ecclésiaste chapitre 9, versets 1 à 12. Donc vous pouvez trouver ce texte dans votre Bible. Et s'il n'y avait pas de vie après la mort, s'il n'y avait pas de vie après la mort, s'il n'y avait rien d'autre que la vie présente, si c'était le cas, je ferais le plus de bien que possible. Je ferais en sorte que ma vie compte. Je serais plus productif, plus sensible aux autres. S'il n'y avait rien de plus à la vie que cette vie présente, j'essaierais de laisser à jamais mon empreinte pour le bien de la société. Si cette vie, c'était tout ce qu'il y avait, j'aurais toutes les raisons de faire le bien tant qu'il en reste encore le temps. Vous connaissez tous ce genre de mentalité, n'est-ce pas? Dans ce type de réflexion, il y a une aspiration à vivre pleinement cette vie, ce qui est bien, n'est-ce pas? C'est l'attitude humaniste face à la vie présente. Et contrairement au nihilisme qui renie la vie et la morale, l'humanisme optimiste affirme que cette vie, qui est courte et difficile, vaut la peine d'être vécue. Cette vie peut être vécue pleinement avec toutes ses joies, toutes ses luttes, toutes ses merveilles et ses souffrances. Selon la doctrine humaniste, c'est ça la vie. Et cette vie avec tout ce qu'elle nous offre est la seule chose qui compte. Et peut-être que vous aujourd'hui, vous avez de la sympathie pour cette vision humaniste du monde et de la vie, qui met en valeur tout ce qui est bien dans l'homme, sans avoir besoin d'imaginer un Dieu. Peut-être que vous vous posez la question de savoir pourquoi nous, les chrétiens, nous passons tellement de temps à nous préoccuper de la vie à venir, alors que cette vie ici-bas est elle-même pleine d'intérêts et d'opportunités. Alors aujourd'hui, nous allons étudier le discours d'un mec qui répond à ces idées humanistes, qui nous montre à partir de sa réflexion qu'il y a autre chose dans la vie que seulement cette vie. Nous allons donc lire, puis regarder plus en détail, Ecclésiaste chapitre 9, versets 1 à 12. Ecclésiaste 9, 1 à 12. Tout cela, je l'ai pris à cœur. Et voici ce que j'ai éprouvé. C'est que les justes, les sages et leur labeur sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi, bien que la haine. L'homme n'en sait rien. Tout peut être envisagé. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui offre un sacrifice et pour celui qui n'offre point de sacrifice. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint le serment. Voici un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Et aussi, le cœur des humains est rempli de mal, et la démence est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. En effet, celui qui est associé à tous les vivants peut avoir confiance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mangez avec joie ton pain et bois du bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant, car les circonstances bonnes et mauvaises surviennent pour eux tous. L'homme ne connaît pas plus son heure que les poissons qui sont pris au filet néfaste, ou que les oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les humains sont enlacés à l'heure néfaste qui s'abat pour eux tout à coup. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous te remercions pour ce privilège de pouvoir étudier ta parole aujourd'hui, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'illuminer la vérité de ta parole pour que nous comprenions la profondeur de ta sagesse et afin que nous appliquions cette vérité à notre propre vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez remarquer que l'auteur de l'Ecclésiaste nous parle, comme d'habitude, de la vie sous le soleil. C'est-à-dire qu'il nous parle de la perspective d'un homme qui ne sait pas trop ce que Dieu fait. Le roi philosophe qui a écrit ce livre nous décrit le désespoir d'un monde où Dieu ne rentre pas en compte. Et il nous montre l'espérance qui se trouve dans la possibilité qu'il existe un Dieu qui veille sur nous. Il nous parle des limites auxquelles nous sommes soumis dans cette vie courte et difficile. Mais je voudrais attirer votre attention sur cette petite lueur d'espoir qui apparaît dans ce texte. Il y a autre chose dans la vie que seulement cette vie. Dans un premier temps, nous allons examiner les versets 1 à 6, d'accord ? Les versets 1 à 6 qui nous invitent à connaître notre avenir. Ces versets nous rappellent que la vie n'est pas sûre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Comme nous l'avons déjà vu dans ce livre, la justice et la bonne morale d'une personne ne garantissent pas du tout qu'elle sera récompensée dans cette vie. Par contre, le peuple d'Israël, à qui ce texte était destiné, aurait très bien compris qu'un sacrificateur, quelqu'un juste et cérémoniellement pur, était autant susceptible de mourir qu'un lépreux, injuste et apostat. La mort, c'est notre destin commun. La mort est sûre, mais ce qui se passe après la mort, ça, c'est pas très sûr, selon l'auteur de ce livre. Alors, quelque chose sur lequel je veux être clair, c'est que les versets 1 à 6 ne nient pas l'existence d'une vie dans au-delà. Ils affirment tout simplement que l'on ne peut pas jouir rétrospectivement de la vie terrestre. Contrairement à l'humanisme optimiste, ces versets affirment que notre présent et notre futur sont dans la main de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a autre chose dans la vie que seulement cette vie. Mais en même temps, l'importance de la vie présente est attestée aussi. Le roi philosophe nous dit que si on est encore vivant, tant mieux, n'est-ce pas? Le proverbe qu'on trouve au verset 4 nous rappelle que c'est la vie présente qui est décisive. Regardez ce texte, ce verset, verset 4. Dans le monde antique, le lion était considéré comme une bête forte et noble. Le chien, par contre, était méprisé, considéré comme impur à cause des ordures qu'il mangeait. Mais même le lion, une fois mort, ne peut pas nous impressionner par sa force, c'est ça l'idée de ce texte. Mais pour le chien, par contre, s'il est vivant au moins, tant mieux pour lui. C'est une bonne image qu'on peut facilement comprendre, n'est-ce pas? Puisque j'habite à 10 minutes à pied du parc de la Tête d'Or, nous fréquentons souvent le zoo avec nos enfants. Ce qui nous intéresse quand on y va, ce sont les gros animaux féroces, les animaux exotiques, les choses qui sont pour nous sont très intéressantes, les ours, les lions, la panthère par exemple, les porcs-épics. Mais quand tous les... Ouais, c'est féroce, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'est intéressant. comme animaux. Mais quand tous les animaux sont en train de dormir au fond de leur fosse, il faut quelque chose d'autre pour attirer notre attention, n'est-ce pas? Ces jours-là, on va avoir la mangouste, le pauvre mangouste, qui n'est pas qu'un rat amélioré un peu, mais au moins il se manifeste, vous voyez, il se manifeste. Et pour ceux qui nous concernent en tant qu'êtres humains, ceux qui sont vivants, ceux qui sont là, ceux qui se manifestent dans la vie, ont encore et toujours l'occasion de réfléchir sur leur avenir. Ce n'est pas encore trop tard. Même si nous ne nous trouvons pas plus intéressant ou plus estimable qu'un rat amélioré, au moins nous sommes vivants et capables aujourd'hui de régler notre avenir, de mettre notre confiance en Dieu, de nous préparer pour la vie à venir. Encore une fois, ces 6 premiers versets nous pointent vers cette réalité qu'il y a autre chose dans la vie que seulement cette vie. Que servirait-il à un homme, dit Jésus, de gagner le monde entier s'il perd son âme? On peut, avec l'Ecclésiaste, valoriser le présent et tout ce qui se passe dans cette vie sous le soleil. On peut, avec les humanistes, valoriser le monde qui nous entoure. Mais il y a autre chose. Il faut connaître son avenir aussi. En n'oubliant pas ce qui est promis à ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Vous connaissez peut-être l'expérience qui a été faite avec des enfants et des chamallows il y a quelques années maintenant, c'était dans les années 60 en fait. Un psychologue a donné un chamallow aux enfants et ensuite il leur a promis qu'ils pouvaient en avoir un deuxième s'ils attendaient 15 minutes sans manger le premier, d'accord? La plupart du temps, l'enfant se satisfaisait d'en avoir qu'un seul, parce qu'il avait du mal à résister à la tentation de chamallow qui était placée devant lui. Pour ses enfants, le plaisir immédiat était le plus important que le bien à venir, vous voyez? Et même pour nous, quand nous ignorons Dieu, qui est souverain sur la vie et sur la mort, nous vivons juste pour le présent, juste pour le chamallow qui est devant nous, sans penser à ce qui vient après. Ça, c'est une vision athée, une vision humaniste qui ne reconnaît la valeur que de cette vie présente. Oui, la valeur de cette vie ici-bas sous le soleil est importante, bien sûr, mais il y a autre chose dans la vie que seulement cette vie. Nous pouvons connaître l'avenir qui nous attend si nous mettons notre confiance en Jésus, le Christ, le Sauveur. C'est la foi en Jésus et dans ses promesses qui nous permet de recevoir tout ce qu'il y a d'autre dans la vie que seulement cette vie sous le soleil. Mais Dieu nous appelle quand même à prendre plaisir dans cette vie ici-bas. En fait, ce passage passe brusquement d'un discours sur le sort commun des hommes, au verset 1 à 6, à un discours sur les plaisirs de ce monde, au verset 7 à 10. L'auteur de l'Ecclésiaste nous appelle, en fait, à jouir pleinement de la vie. Encore une fois, le livre de l'Ecclésiaste affirme, comme le font les humanistes aussi, que cette vie est importante, mais contrairement aux humanistes, l'Ecclésiaste précise que les plaisirs de cette vie trouvent leur source en Dieu. Le texte nous appelle à manger avec joie, à boire de bon cœur notre vin, et à jouir de la vie avec notre épouse ou époux. Mais comme le dit le verset 7, cet impératif vient de Dieu par la grâce de Dieu. C'est l'idée selon laquelle tout est de lui, pour lui, par lui, comme le dit le Nouveau Testament, Romains chapitre 11, ou 1 Corinthiens chapitre 10, par exemple, qui dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Contrairement à l'hédonisme, qui recherche le plaisir maximum à court terme, sans considérer le long terme, et contrairement à l'épicurisme, qui recherche le plaisir maximum à long terme, sans considérer le court terme, la vision de l'Ecclésiaste est une célébration de la vie qui découle du fait de savoir que cette vie est une grâce de Dieu. Alors on comprend sans difficulté quelles sont ces grâces qui consistent à manger et boire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par les vêtements blancs et l'huile sur la tête? C'est bizarre pour nous, surtout en France où la mode, ce sont des vêtements de couleur sombre, comme ce que je porte ce soir, où la solution pour des cheveux gras, c'est un bon shampoing, n'est-ce pas? Mais dans le monde antique, les vêtements de lin ainsi que l'huile pour adoucir la peau, c'était des articles de première nécessité. Ces choses représentent les plaisirs basiques de la vie. Et à ces plaisirs, l'auteur ajoute aussi le mariage au verset 9. Le mariage est un appui, une aide face aux frustrations de l'existence. Le mariage est considéré ici comme étant normal et propice. Il y a un parallèle entre ce que dit ce texte et ce que dit Genèse chapitre 2 par rapport au mariage. La femme est une bénédiction, un soutien pour l'homme. La relation entre l'homme et la femme est une relation d'amour et d'encouragement dans cette vie courte et difficile sous le soleil. Mais le verset 10 nous donne un bon résumé de cette petite section. Ce verset n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de vie après la mort, puisque les Juifs de l'Ancien Testament présupposaient déjà qu'il y aurait un genre d'existence dans un séjour de mort, comme le texte mentionne. Et donc, dans le contexte de la brièveté de la vie, je pense que ce verset nous enseigne plutôt que les activités et les opportunités de cette vie restent dans cette vie. C'est vraiment ça l'idée. Les plaisirs ou bien les misères qui nous attendent après la mort ne découlent pas directement de ce qui se passe dans ce monde. Ça, il faut rester, ces choses restent dans cette vie. Notre vie doit honorer Dieu qui nous donne des bonnes choses. L'idée centrale, c'est de profiter au maximum de chaque jour, de chaque tâche que nous avons à accomplir. En avril de l'année dernière, ma famille a eu l'occasion de loger pendant une semaine dans une maison de vacances dans les Alpes autrichiennes. Et à notre très grande joie, il y avait un barbecue cheminée dans le jardin de cette maison. Et parce qu'on n'a presque jamais l'occasion à faire un barbecue comme ça à Lyon, parce qu'on habite dans un appartement au sixième étage, c'est pas très facile, j'ai acheté 10 kilos, ou même plus, de viande, et j'ai fait des barbecues tous les jours, par beau temps, comme par mauvais temps, sous la neige, je plaisante pas, sous la pluie, sous le regard des habitants du coin qui se sont sûrement demandé ce qu'il lui prenait à ce pauvre touriste. Et peut-être que c'était un peu excessif de ma part, mais je vous assure que j'ai profité au maximum. J'ai profité au maximum de ce barbecue. Et de même façon, nous pouvons profiter de la vie que Dieu nous donne en sachant que c'est une grâce de Dieu, que cette vie est importante, que cette vie pointe vers le Dieu qui est la source de la vie. Ce texte nous enseigne qu'il y a autre chose dans la vie que seulement cette vie. Ces versets nous rappellent que notre réponse face à la vie, à cette vie, c'est ce qui fait toute la différence en fait. Mais plus important encore, notre réponse à Dieu dans cette vie fait encore plus la différence. Un des plaisirs les plus importants, je pense, dans cette vie, c'est la communion avec Dieu, par la foi en Jésus-Christ, par l'étude de sa parole, qui nous enseigne, qui nous réconforte, par les sacrements de l'Église, par la confiance en Dieu pour ce qui concerne notre avenir, vous voyez? Alors, troisièmement et dernièrement, ce texte nous incite à croire en Dieu, c'est-à-dire à nous fier à lui. Les versets 11 à 12 soulignent le fait que sous le soleil, nous ne pouvons que supposer que nous sommes des victimes du hasard. Ce qui nous rappelle que la réalité sous le soleil n'est pas la seule réalité. Il y a un Dieu au-dessus du soleil qui veille sur tout. La vie est entre les mains de Dieu. Il y a là un contraste avec les doctrines humanistes qui disent que bien que nous soyons victimes du hasard, nous pouvons lutter contre notre destin afin de le prendre dans nos mains et de changer le monde pour le bien. Ça, c'est une cause noble, je pense. Mais les versets 11 et 12 de ce texte sont plus réalistes par rapport à notre sort sous le soleil. L'homme est soumis à des pouvoirs plus forts que lui. Il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle, surtout le jour de notre mort. Nous, les êtres humains, nous sommes obsédés par l'idée de prolonger notre vie le plus possible, jusqu'au moment où nous voyons que c'est une cause perdue, et là, nous commençons à envisager des choses comme l'euthanasie, n'est-ce pas? Cette vision athée et humaniste essaie de contrôler toute la vie, sans reconnaître qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle, qu'il y a plus de cette vie. Il y a autre chose dans la vie que seulement cette vie. L'homme ne connaît pas son heure, nous dit l'Ecclésiaste. L'histoire raconte que Molière, le dramaturge, est mort après avoir été pris d'une forte toux pendant qu'il jouait le rôle d'un malade dans sa pièce de théâtre, qui était le malade imaginaire. C'est ironique, n'est-ce pas? Ça illustre bien le fait que nous ne connaissons pas notre heure. C'est pourquoi nous, les chrétiens, mettons notre confiance en Dieu, non pas juste pour cette vie, mais aussi pour la vie à venir. Il y a autre chose dans la vie que seulement cette vie. Ces versets sont un commentaire, en quelque sorte, sur le bien et le mal qui nous attendent dans ce monde déchu. Mais par ces versets, dans sa miséricorde, Dieu nous dit « Attendez-vous à l'inattendu. » Quand nous faisons face à la brièveté de la vie, nous ne devons pas nous en étonner. Quand nous faisons face au plaisir de la vie, nous ne devons pas penser que cela arrive par nos propres efforts. Tout est dans la main de Dieu. Comme nous l'avons vu au début, nous aimerions laisser une empreinte immortelle pour le bien de la société. Et nous devons le faire, je pense, mais sans oublier notre âme immortelle. Ce texte nous incite à nous poser cette question. En participant pleinement à cette vie sous le soleil, est-ce que j'oublie qu'il y a une vie au-dessus du soleil? Autrement dit, est-ce que je vis seulement pour cette vie et pour ce qu'elle m'offre? Ou bien, est-ce que je cherche Dieu et son royaume? Il y a autre chose dans la vie que seulement cette vie, comme j'ai dit, parce qu'il y a un Dieu qui est créateur de la vie, maître de la vie, sauveur de la vie. Si nous mettons notre vie entre les mains de Dieu par la foi en Jésus, nous pouvons profiter pleinement de la vie, maintenant et pour toujours. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es le souverain maître du monde et le maître de la vie et la mort. Seigneur, veille sur nous, sur notre vie et aide-nous à vivre pour toi en nous appuyant sur tes promesses. Au nom de Jésus, Amen.